Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio RDL 103.5. Je m'appelle Léa et je suis en compagnie de
Martin,
Valentine
et Louis.
Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet actuel et très important. L'impact écologique causé par le sport. Car, en effet, la Coupe du Monde de la FIFA est d'actualité. Et également le Tour de France et la préparation des Jeux Olympiques d'hiver.
Mais avant, RDL vous propose de gagner deux entrées à la Foire au Vin. Vous n'avez qu'à téléphoner au 03 89 24 12 11. Je répète, 03 89 24 12 11. Merci.
Léa et moi-même allons vous parler de l'impact écologique causé par la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques d'hiver. Et Louis et Valentine vont parler de l'impact écologique causé par le Tour de France. Pour commencer, nous allons tout vous expliquer sur le bilan carbone de la Coupe du Monde, sous forme de jeu. Le principe est simple, nous allons vous poser des questions et vous aurez quelques instants pour y répondre.
Première question. À votre avis, pourquoi dit-on que la Coupe du Monde 2026 est la plus polluante de l'histoire ?
Il y a eu beaucoup de déplacements par avion, non ?
Oui, beaucoup de déplacements et tous les arroseurs automatiques dans les stades avant chaque match.
Oui, c'est exactement ça. La Coupe du Monde a généré plus de 9 millions de tonnes de CO2, un volume jamais atteint par un événement sportif de la FIFA. Les 9 millions de tonnes de CO2 émises équivalent à la pollution produite par 6,5 millions de voitures roulant pendant une année entière. Deuxième question. Quels étaient les engagements initiaux de la FIFA pour le climat ?
Oh ben, je pense réduire leurs émissions carbone.
Oui, ça me paraît très logique.
En effet, la FIFA s'était engagée en 2021 à réduire ses émissions de 50% d'ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone en 2040, ce qui reste les engagements initiaux.
Ouais, vous en pensez quoi ?
Ben, c'est un peu mal parti.
Oui, surtout si cette année, ils ont atteint un nouveau volume. Pour diminuer, ça va être compliqué.
Ouais, c'est vrai que c'est presque foutu, j'ai envie de dire.
Ça. Troisième question. Pourquoi le format de la compétition aggrave-t-il la pollution ?
Je pense qu'il y a, comme dit avant, beaucoup de déplacements parce que les joueurs viennent de tous les coins du monde.
J'avais entendu, il y a plus d'équipes et donc ça fait beaucoup plus de matchs.
Oui, c'est exactement ça. Le passage à 48 équipes et 104 matchs multiplie les déplacements aériens longue distance à travers le Canada, le Mexique et les États-Unis.
Oui, et surtout, j'avais entendu, ça ne va pas arranger les choses parce qu'en 2030, pour les 100 ans de la Coupe du Monde, ils vont de nouveau prendre 3 pays, l'Espagne, le Portugal et le Maroc.
Oui, effectivement, et franchement, ils voulaient réduire les émissions de 50% d'ici 2030. S'ils reprennent le format 3 pays, grands pays, ça ne va pas aider. Donc, ça va être
pas une très bonne idée, pas une très bonne initiative écologique.
Si encore, c'était que l'Espagne et le Portugal, ok, mais là, rajouter le Maroc, où on ne peut pas aller en voiture.
Oui, 2, mais 3, c'est beaucoup.
Ouais, ça risque d'être compliqué. Quatrième question. Quel est l'impact politique des États-Unis sur le bilan écologique du tournoi ? Est-ce que vous pensez que les États-Unis, ils ont essayé de trouver une solution pour limiter les émissions ou pas du tout ?
Honnêtement, ça m'étonnerait.
Oh, moi aussi, venant d'eux, ça risque pas de... Je pense qu'ils n'ont pas essayé de trouver des solutions, en tout cas.
En effet, l'administration américaine s'étant retirée de l'accord de Paris, il n'existe aucune contrainte environnementale nationale pour limiter les dérives du tournoi. Aucune initiative.
Ouais, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça.
Un peu étonnant. Quelle est la menace précise sur les ressources à Mexico ? Donc l'eau et principalement l'eau potable.
Alors là, personnellement, j'en ai aucune idée.
Oh ben, je crois qu'il y avait des menaces, comme quoi les quartiers pauvres ne pourraient plus utiliser l'eau potable.
Oui, c'est exactement ça. Les militants alertent sur le détournement des réserves d'eau potable au profit des infrastructures de la Coupe du Monde, privant les quartiers pauvres de cette ressource essentielle. C'est triste, mais c'est comme ça. Désormais, on va vous parler d'un point commun entre la Coupe du Monde qui s'est déroulée au Qatar il y a 4 ans et celle de cette année. Alors, en 2022, la Coupe du Monde au Qatar a suscité de nombreuses controverses quant à son empreinte écologique. La climatisation a coûté en tout plus de 4 milliards de dollars. Et c'est de même pour la Coupe du Monde 2026, avec des stades climatisés et des pelouses qui ont demandé énormément d'eau, car elles ont été préparées seulement quelques mois avant le tournoi.
En France, les Jeux Olympiques d'hiver, en 2030, sont prévus dans les Alpes françaises. Ce n'est pas la première fois que la compétition aura lieu dans la région. Il y a déjà eu Chamonix en 1924, Grenoble en 1968 et Albertville en 1992. Or, les Alpes, comme de nombreux milieux montagneux, malheureusement souffrent fortement et sont touchées par la hausse des températures. Les Alpes et les Pyrénées auraient perdu jusqu'à 40% de leur volume glaciaire, soit quasiment la moitié, et en malheureusement un peu plus de 20 ans.
Et maintenant, place au Tour de France. Entre la caravane qui distribue des goodies aux supporters et les déplacements des spectateurs à travers le globe pour suivre les coureurs, l'empreinte carbone est salée. Le Tour de France en chiffres clés, c'est 3405 km, 176 coureurs, 501 compagnons, 150 véhicules et 10 millions de goodies distribués par la caravane.
Dans le cadre de la politique de réduction de son empreinte carbone, le Tour de France met en application la doctrine ERC, éviter, réduire, compenser.
Entre 2013 et 2021, ils ont réussi à baisser les émissions de COD de 37%, mais leurs émissions de COD est encore égale à la production de 458 télévisions. Ils ont également planté plus de 2000 arbres avec des enfants pour essayer de réduire leur production de carbone.
84% de l'empreinte carbone du Tour de France est liée au transport. Plutôt ironique pour un événement sportif qui promet la mobilité durable. En réalité, ce ne sont pas les coureurs et leurs bolides qui posent problème à l'environnement, mais plutôt les véhicules qui les suivent tout au long de la course, ainsi que les déplacements d'avions de millions de supporters à travers le globe, venus pour soutenir leurs coureurs favoris dans le terrain.
Pour diminuer cette pollution, voici quelques actions qu'ils ont mises en place auprès des spectateurs. Ils ont encouragé le covoiturage en leur réservant des places de parking. Ils ont réduit le prix des places de bus et ils ont également interdit l'accès à certains véhicules motorisés dans l'école.
Et pour les organisateurs, l'interdiction des véhicules thermiques pour les suiveurs en 2024. Depuis 2022, les 190 voitures sont électriques ou hybrides. La caravane sera 100% alimentée en hydrogène. Elle émettait 4505 tonnes de CO2 en 2021. Les camions transportant le matériel consomment du biocarburant.
Oui, heureusement qu'ils ont trouvé des solutions parce que je ne pensais pas que le Tour de France aurait émis autant de CO2 comme ça.
Pareil, avant de faire nos recherches, j'aurais jamais pensé que ça polluerait autant.
Mmh, oui, ouais. Moi aussi.
C'est vrai que chaque élément sportif font du mal à notre planète. Hein.
Oui, ça se voit.
Dans la continuité de ce que nous venons de dire, nous vous laissons avec le second groupe de ce mercredi qui va parler de la déforestation. Mais avant tout ça, on vous propose d'écouter une musique, Waka Waka de Shakira. Bel après-midi à vous sur RDL 103.5.
Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. This time for Africa. Listen to your guide, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh. Waka,
for Africa.
I will have a journey, biggie, biggie mama, one A to Z. Party, so sell my journey, biggie, biggie mama, from east to west. Party, waka, waka, my A, A, waka, waka, my A, A.
Bonjour à tous, je m'appelle Lucille et je suis accompagnée de
Jeanne,
Gaspard
et Sacha.
Aujourd'hui, nous allons vous parler de la déforestation, de ses causes et de ses conséquences.
Avant de commencer et de vous parler de la déforestation, nous aimerions vous rappeler l'importance de la forêt.
La forêt est indispensable à l'animal, tout comme l'être humain. Elle abrite plus de la moitié des espèces terrestres d'animaux, de plantes et d'insectes
de la planète. Les forêts fournissent de l'eau potable à près de la moitié des grandes villes du monde. Elles atténuent également les effets des tempêtes et des inondations.
Les forêts couvrent un tiers des terres émergées de la planète, remplissant des fonctions vitales et assurant la subsistance de 1,6 milliard de personnes. Elles fournissent également des abris, des emplois et la sécurité aux populations qui dépendent des forêts.
Bon, eh bien, je pense que nous pouvons à présent commencer à parler des causes de la déforestation.
Oui, allons-y.
Saviez-vous qu'à l'échelle mondiale, 50% des causes de la déforestation sont dues à l'agriculture industrielle, 40% à l'élevage du bétail et 6% à l'urbanisation.
Waouh, c'est énorme! Et en Europe, ça donne quoi?
Alors, il y a 15% de la déforestation qui est due à la conversion en terres cultivées et 20% due à l'élevage du bétail. Sinon, la principale cause de déforestation, c'est l'urbanisation.
Vous saviez que 90% des forêts détruites sont tropicales?
Pas du tout. D'ailleurs, la forêt amazonienne en fait partie, non?
Exactement. Et quels sont les continents qui subissent le plus de la déforestation?
Il y a l'Afrique en première position, suivie de l'Amérique du Sud, puis l'Asie.
Et vous avez des chiffres pour avoir une idée de l'ampleur?
Oui. Alors, pour l'Amazonie, il y a 859 arbres abattus par minute, soit environ 14 arbres coupés par seconde et 1,4 milliard d'arbres coupés par an. À l'échelle mondiale, 2400 arbres coupés par minute, 10 millions d'hectares par an sont coupés.
Eh bah, c'est énorme!
Et quelles sont les conséquences de la déforestation?
Il y en a beaucoup trop, malheureusement. Les écosystèmes sont détruits. En Amazonie, 85% des animaux sont sans habitat.
Beaucoup d'animaux sont impactés par la déforestation de la forêt amazonienne, comme le jaguar, les chimpanzés et bien d'autres. Certaines espèces sont en voie d'extinction dangereuse, comme le tapir d'Amérique du Sud.
Il n'y a plus assez d'arbres pour absorber le CO2 produit sur la planète. Quand les arbres brûlent, ils libèrent du CO2.
Le cycle de l'eau se dérègle. 26% de l'Amazonie se trouve dans un état de déforestation ou de dégradation avancée.
Nous espérons que vous avez pris conscience de l'ampleur de la catastrophe. Après toutes ces informations très inquiétantes, nous allons parler des solutions.
Quelles sont les solutions et pratiques durables à mettre en place?
La reforestation est une solution à long terme. Cela consiste à replanter des arbres dans les zones déboisées.
Cette pratique aide à restaurer les écosystèmes, améliorer la qualité du sol et de l'eau et à capturer le carbone atmosphérique, contribuant ainsi à lutter contre le changement climatique. Cependant, c'est un processus long et complexe.
Le commerce équitable, qui repose sur trois principes fondamentaux.
Une juste rémunération des producteurs, le respect des droits des producteurs et travailleurs.
Et pour finir, agir à son échelle.
Est-ce que vous avez des idées à faire justement à notre échelle?
Oui. Bah, les adultes, il faut qu'ils fassent attention à leurs mégots. S'ils les jettent sur la forêt et qu'ils sont encore allumés, ça peut provoquer un incendie et défricher toute une forêt.
Moi, je pense qu'il faudrait essayer de moins consommer d'huile de palme.
Et aussi ramasser ses déchets lors des pique-niques ou des choses du genre.
Oui, et puis on peut aussi prendre des transports comme le tram, éviter de prendre la voiture, marcher plutôt que... Oui, voilà, prendre la voiture. Et vous aimez la forêt ?
Oui, moi j'aime bien la forêt. Je me sens plus libre, ça me vide la tête quand je suis en forêt et j'aime bien l'odeur de la forêt.
Moi, j'aime bien faire des cabanes en forêt, souvent avec les colonies de vacances dans lesquelles j'y vais. Et puis, j'aime bien passer du temps avec la nature.
Moi, j'aime bien parce que je fais de la course en natation, un sport où il faut une forêt, sinon, bah, on peut pas faire ça. Et j'adore ça parce que ça m'apaise, j'adore les petites rivières et tout. Dès qu'on croise des petits animaux, c'est mignon aussi.
Oui, moi, j'adore aussi en balade, voir des animaux, entendre le chant des oiseaux.
Nous espérons que le sujet sur lequel nous avons travaillé vous a fait prendre conscience de l'ampleur des dégâts, mais aussi qu'une amélioration est possible, si tout le monde y met du sien.
Nous vous laissons avec la musique 2083 de Grand Corps Malade, qui nous a particulièrement touchés. Elle parle d'un petit-fils qui écrit, de 2083, une lettre d'avertissement à son grand-père, pour que son époque agisse, qu'elle fasse tout pour éviter la catastrophe qu'est la Terre en 2083.
Le prochain groupe vous racontera des histoires d'horreur. Merci de nous avoir écoutés et à demain sur RDL 103.5.
Cher Fabien, tu ne me connais pas encore, je suis ton petit-fils. Je t'écris depuis l'année 2083. Je te passe ce message afin que ton époque réagisse. Ici, la planète va mal, il faut absolument que tu me croies. Jakarta, Lagos, New York ont disparu sous la mer, mais aussi Venise, Londres et un tiers des Pays-Bas. Tombouctou et le Nord Mali ensevelis sous le désert, et le fleuve Niger n'a plus une seule goutte d'eau dans ses bras. Les villes côtières qui luttent contre la montée des eaux ont beau construire des digues, des barrages et des murailles, elles ne pèsent pas bien lourd et éclatent vite en morceaux quand les cyclones et ouragans viennent finir le travail. Dans plusieurs pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, mais aussi à Athènes, au Caire et quelques autres élus, il fait souvent 60 degrés, chaque été est un test où les riches vivent sous la clim et les pauvres ne vivent plus. Les changements climatiques ont été tellement violents que les écosystèmes n'ont pas eu le temps de s'adapter. Un million d'espèces, en plus des fameux ours blancs, ont disparu pour toujours, elles n'ont pas pu résister. L'année dernière, New Delhi a été entièrement évacuée, asphyxiée qu'elle était sous un nuage de pollution. À Pékin et Shanghai, une nouvelle loi vient de passer. Sans masque à oxygène, il est interdit de sortir de sa maison. Les sols sont tellement secs qu'il n'y a plus de vignes en France. Et dans plusieurs pays du Sud, l'agriculture est impossible. Quand les fermiers n'ont plus d'eau, on est au-delà de l'urgence. La famine et la misère sont devenues irréversibles. La sécheresse et la chaleur ont provoqué des millions de morts et des millions de réfugiés qui fuient leur pays. Les frontières sont des zones de combat dans les États du Nord. C'est la guerre en Europe, en Amérique et en Asie. Cher petit-fils, j'ai lu ton courrier avec effroi. Je crois bien avoir saisi l'ampleur de la crise. Mais pour te dire la vérité, pour nous en 2023, tout ce que tu me racontes là n'est pas vraiment une surprise. Ça fait plusieurs années, voire plusieurs décennies, que les scientifiques essaient vainement de nous alerter. Qu'il n'est pas encore trop tard, que le combat n'est pas fini, mais qu'on joue tous en ce moment l'avenir de l'humanité. J'ai toujours pas compris ce que font les grands de ce monde. Chaque conférence sur le climat est un terrible échec. Aucun G20 n'aboutit à des mesures profondes. Ils y vont en jet privé et se torchent avec les rapports du GIEC. Quand vont-ils déclarer l'état d'urgence climatique mondiale et contraindre les pays sur leurs émissions de CO2? Quand vont-ils rendre toute déforestation illégale, investir massivement pour consommer moins, consommer mieux? Les changements de comportement passeront forcément par des lois. Les politiques devront sortir de leur inaction. Il ne faudra pas attendre d'être en 2083. Dès aujourd'hui, les demi-mesures ne sont plus une option. We'll be right back.
peux-tu demander à tous tes potes d'écrire à leurs aïeux de suivre ton initiative? Le combat n'est pas perdu, la terre n'est pas encore morte, mais la victoire pour le climat ne pourra être que collective.
Bonjour, vous êtes toujours sur RDL 103.5, nous sommes le dernier groupe d'animation été. Je suis Lucia et je suis en compagnie de
Mathilde,
Lily
et Eléa.
Et on va, comme le groupe précédent l'a annoncé, on va vous parler d'histoires un petit peu effrayantes, horrifiques. Donc d'abord on fait un petite alerte au début.
Pour les enfants, les jeunes enfants, pour ne pas être choqués par rapport aux histoires qu'on va dire, qui peuvent faire peur un peu.
Si vous êtes sensible, ouais, évitez peut-être de trop écouter nos histoires.
Voilà. Donc, on va tout de suite commencer avec toi. Lily, ça, tu voulais commencer, il me semble.
Oui, donc je vais vous raconter une histoire sur une apparition qui fait peur. Il était 3h du matin et un adolescent se réveilla pour la toilette. Comme toute personne au réveil, il était un peu dans les vapes, les yeux à moitié ouverts, il voyait un peu flou. Les toilettes, situées juste en face de la porte de la chambre, séparées par un long couloir qui menait vers l'entrée de la maison. Pour accéder aux toilettes, il devait donc traverser le couloir en largeur. Après être allé aux toilettes, il retourna se coucher, sauf qu'au moment de traverser, pour retourner dans sa chambre, il s'arrêta. Il vit une silhouette noire au bout du couloir vers l'entrée. La silhouette se dirigeait vers la sortie, il faisait nuit, il ne voyait rien au loin. Une voix sortit de la silhouette et dit alors, dans sa langue maternelle, « Tu fais quoi ? Va vite te rendormir, d'un ton pressé. » Il reconnut la voix de son père. Cependant, à l'époque, son père travaillait très loin de la maison et ne rentrait pas souvent vers 3h du matin, mais plutôt dans l'après-midi, car il passait la nuit sur son lieu de travail. Mais naïvement, l'adolescent se dit qu'il est rentré plus tôt cette fois. C'est génial. Il continua donc son chemin et y retourna se coucher. Le lendemain, au réveil, il demanda à sa mère où était son père quand il l'avait vu rentrer. Elle répondit « Il est au travail. Qu'est-ce que tu me racontes ?»
Ouais.
Et bah,
j'ai pas osé me retourner, je vais t'avouer là pour le coup.
Lucia est dans la régie, elle a une vitre transparente derrière elle, elle a peur.
Je veux pas me retourner.
Ça commence bien.
Et Léa, s'il te plaît, enchaîne.
Alors, moi je vais vous parler d'une histoire d'une gardienne. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, pour payer ses études, va trouver un job comme gardienne. Elle va garder la maison de son voisin, un médecin, respectable, digne de confiance. Et ce soir-là, le médecin avait demandé à ce que la gardienne se présente à la maison vers environ 19h. Peu de temps après son arrivée dans la maison, la jeune étudiante, elle reçoit un appel téléphonique. Un homme, à la voix assez grave, lui dit que si elle ne quittait pas la maison immédiatement, il mettrait fin à sa vie. Terrifiée, elle raccroche le téléphone. Puis, elle fixe l'afficheur du téléphone et évidemment, le numéro était masqué. Environ 30 minutes plus tard, le téléphone sonne de nouveau. L'homme lui dit « Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai ». Prise de terreur, elle raccroche et appelle une téléphoniste pour trouver une solution. Celle-ci lui recommande de garder l'homme en ligne pendant environ une minute pour être capable de tracer d'où provenait l'appel. Plus tard, le téléphone sonne à nouveau. Le même homme se tenait au bout du fil. Malgré sa peur, la gardienne réussit à le garder en ligne pendant tout près d'une minute. Il lui répète ses menaces en boucle. Il lui demande de quitter la maison sur le champ, sinon il la tuera. Dans l'urgence, la téléphoniste rappelle pour lui ordonner de sortir de la maison le plus rapidement possible, car l'appel provenait de la deuxième ligne de téléphone de la maison, qui était située au deuxième étage. L'assassin se trouvait donc à l'intérieur de la maison.
J'ose vraiment pas me tourner là, ça fait trop peur. Piggy, s'il te plaît, surveille derrière moi, j'ai vraiment peur. Et bah du coup, on va enchaîner sur moi, j'espère que je vais pas trembler pendant mon histoire. Et moi, je vais vous parler d'une histoire de casse-tête. Une vieille femme vivait seule chez elle, et un jour, elle s'installe dans son salon et décide de faire un puzzle pour passer le temps. Au bout d'un moment, elle a une impression assez étrange, parce que quand elle avance dans son puzzle, elle assemble les pièces et elle reconnaît peu à peu le décor de son propre salon. Sa télévision, son fauteuil, sa table, et puis elle-même vue de face. De plus en plus effrayée, elle décide tout de même de continuer pour voir la fin du puzzle. Les derniers morceaux qu'elle assemble lui glacent le sang. Ils illustrent la fenêtre qui se trouve derrière elle. La toute dernière pièce du casse-tête, quant à elle, montre le coin de la fenêtre avec le visage terrifiant d'un homme la regardant. Peggy, c'est pas drôle.
Ça donne la chair de poule.
Ouais.
Court mais efficace.
Ouais. Mathilde, termine s'il te plaît.
Moi, je vais finir avec une histoire par rapport à une voisine. C'est l'histoire d'un jeune homme qui venait d'emménager dans un immeuble. Une nuit, quelqu'un frappa à sa porte. Il se leva pour aller ouvrir. Une femme se tenait là, devant lui. Cette dernière lui demanda timidement si elle pouvait passer la nuit chez lui, car son conjoint la battait et elle s'était enfuie. Elle le rassura en mentionnant qu'elle avait appelé sa famille et qu'ils viendront bientôt la chercher. Le lendemain, compatissant, le jeune homme lui offrit une couverture et lui dit de dormir sur le canapé. Au réveil, la couverture était pliée et bien rangée sur le coin du canapé, et la jeune femme semblait avoir quitté les lieux. Le jeune homme partit donc travailler. Le soir suivant, on frappa de nouveau à sa porte. Encore la même femme, mais cette fois, son visage porte des marques de violence. Elle lui demande à nouveau l'hospitalité. Incapable de refuser, le jeune homme lui propose de dormir au même endroit que la veille. Au petit matin, même manège, elle n'est plus là. Cette situation se répète au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme décide de se rendre au poste de police pour expliquer sa situation. Un agent lui montre alors une photo sur laquelle il reconnaît une femme. La police lui dit alors que cette femme a été battue à mort par son conjoint dans l'appartement du jeune homme quelque temps auparavant.
C'est pas drôle de faire peur aux gens comme ça.
Et donc moi, un jour, j'ai ouvert à un voisin, il est mort.
Quoi? Et tu dis ça comme ça, toi?
Oui, pour te faire peur.
Et donc, on vous a raconté ces quatre histoires pour... Vous parlez de quelque chose qui nous tient, c'est le fait que ne pas croire tout le temps ce qu'on vous dit si ce n'est pas vérifié. Parce que dans ces quatre histoires, il y en avait une fausse. Est-ce que Peggy, tu as trouvé quelle était la fausse?
Ça fait moins la maline.
Ah ouais, je fais moins la maline. Voilà. Je dirais alors entre la voix... celle de Eléa.
Non. La gardienne?
Ouais.
Ouais, non, c'était pas non. Celle-là.
Ah, c'est la tienne,
celle-là
alors.
Ouais, c'était la mienne. C'était la première, avec l'adolescent qui voit son père dans la nuit. Et justement, c'est pour vous prouver que ne pas toujours croire ce qu'on voit,
pour vous sensibiliser à la désinformation.
Ouais, notamment qui est encore plus présente en ce moment avec l'IA, qui fait
beaucoup de bazar, parce qu'elle falsifie des informations, des images, des vidéos, même des vocaux. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on entend, ce qu'on dit, j'ai envie de dire.
Ce qu'on peut voir, ouais.
Oui, donc, pour vous dire, demandez-vous toujours d'où ça vient, la source, même si c'est une histoire qui paraît tout à fait banale.
Même si la source a l'air fiable, il faut toujours vérifier d'où ça vient.
Voilà. On espère que ça fait un petit peu peur. En tout cas, moi, j'ai pas arrêté de sursauter. Peggy s'est moquée de moi. J'arrêtais pas de me tourner derrière moi parce qu'il y a une vitre. J'ose pas. J'ai super peur. Donc, on espère que... Peggy, c'est pas drôle!
Je voulais la faire crier.
Mais avant, j'ai crié quand Louis, il est venu. À la fenêtre, il m'a fait peur. Mais voilà. Donc, on espère que ça vous a plu. On croise les doigts. On vous dit à demain de la part de toute l'équipe. Et on vous laisse tout de suite avec une musique qui vous mettra de meilleure humeur, qui vous fera un peu moins peur. De Sunroof, de Nikki Your Daisy. Bisous, bisous. Merci de nous avoir écoutés. Let me show it. You are
cool and kinda gnar. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine. With you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine. With you, with you, with you. I got my head out this sunroof.